prêché au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA, le 9 septembre 1962. Ce message s'intitule « En sa présence ». Merci, frère Neville. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et bonsoir, mes amis. C'est un grand privilège d'être ici dans le bâtiment à nouveau ce soir et de ressentir la présence de notre Seigneur qui ne faillit jamais, comme il en a donné la promesse. Et maintenant, je sais que plusieurs d'entre vous sont restés pour ce petit message ce soir et je vous en suis très reconnaissant. Et plusieurs d'entre vous doivent conduire encore loin ce soir pour se rendre à la maison. Quelques-uns ont déjà tout réglé avec leur motel, si j'ai bien compris. Alors nous essayerons de ne pas vous retenir trop longtemps, et c'est pourquoi nous sommes arrivés plus tôt, afin de pouvoir sortir plus tôt. Et alors nous allons, aussitôt que je le peux, j'annoncerai quand nous commencerons. J'ai eu des appels cet après-midi, sachant que nous commencerions avec ces livres ou ces chapitres. Et je pense, si le Seigneur le veut, je pense prendre la prochaine fois que nous commencerons sur les 7 sceaux de l'Apocalypse et les 7 sceaux naturels. Et alors, si nous terminons à temps, nous prendrons les 7 sceaux au dos du livre, voyez-vous? Maintenant, cela peut prendre un peu de temps. Voyez, il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Il y a 7 plaies, 7 trompettes. Tous ces 7 et ces sceaux, nous pourrions prendre cela en premier. Mais ensuite, au dos du livre, cela est scellé avec 7 sceaux. Daniel a entendu la voix alors qu'elle tonna, et il lui fut défendu de l'écrire. Mais cela fut scellé au dos du livre, c'est-à-dire après que tous les mystères du livre furent donnés et révélés. Remarquez, Daniel l'a dit ici, les mystères dans les jours de ses voix. Le mystère devrait être dévoilé en ce moment-là. Voyez, le mystère qui est Dieu. Comment il devint chair, toutes ces choses devraient être dévoilées à ce moment-là. Et alors, quand ils seront prêts pour les 7 sceaux au dos du livre, cela n'est même pas révélé à l'homme, pas même écrit dans la Bible, mais cela devra pouvoir être comparé et être identifié avec le reste de la Bible. Et je crois que ce sera une glorieuse chose. Alors maintenant, nous allons essayer de nous dépêcher pour pouvoir tout terminer et prendre tout le message. Merci à chacun de vous pour votre bonté et votre présence et tout ce que vous avez fait. Nous vous remercions beaucoup. Et maintenant, j'espère que nous ne vous garderons pas trop longtemps ce soir, parce que vous êtes si patient de vous asseoir puis d'être debout. Et ma femme m'a dit que là en arrière, elle parlait d'hier soir, elle m'a dit, j'ai vu des femmes qui se portaient assez bien, se tenant là, leurs vêtements tout trempés de sueur, se tenant là, s'agrippant à chaque parole. C'est la raison pour laquelle j'aime rester sous l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque vous en ressortez, vous dites à ces gens la franche vérité, voyez, et rien que la vérité. Et alors, ils peuvent se tenir à cela, et ce sera très bien. Maintenant, je vais vous demander de m'excuser pour quelques instants. J'ai quitté un peu plus tôt ce matin, et les bandes furent arrêtées à ce moment-là. Et dans juste un moment, je vais dire à ceux qui enregistrent quand remettre la bande, car je veux finir le compte à rebours. Juste 5 minutes pour cela, avant de quitter ce sujet. J'ai oublié ce matin et je suis parti. J'étais si transporté ce matin que je suis sorti sans rien dire à propos de cela. Et je vous ai laissé avec la question, qu'est-ce que le compte à rebours? Voyez? Maintenant, je sais que nous sommes dans le compte à rebours. Mais qu'est-ce que le compte à rebours? Voyez? Si vous ne savez pas ce qu'est le compte à rebours, alors vous serez un peu confus. Alors, j'aimerais vous apporter cela juste et essayer d'être dans le même ton que j'ai dû finir cette bande maintenant, je vais la finir maintenant même. Alors la bande sortira, le compte à rebours. Alors maintenant, veuillez tous m'excuser pour un moment et ensuite nous commencerons avec l'autre. Et maintenant, vous qui enregistrez, si vous voulez bien, alors mettez votre bande maintenant. Il y a un espace sur la bande originale anglaise. Cette partie qui manque est probablement celle qui se trouve dans le message « Le compte à rebours ». La parole parlée, volume 11, numéro 3, paragraphe 106 à 111 en anglais. Note de l'éditeur. Venant de différents endroits, et nous avons eu un merveilleux temps dans ces trois derniers messages, en parlant sur le sujet de différentes doctrines, et ainsi de suite que nous avons établies. Je me souviens à ce moment que je dois laisser un petit espace là, pour les gens qui s'occupent des bandes, afin qu'ils puissent tourner la bande. Maintenant, je vous dirai quand est prêt à commencer. Très bien. Maintenant, je dois surveiller ceci. Cela semble comme composé d'un tas de formalités, mais ces hommes-là doivent avoir la bande. Et ils ne peuvent pas avoir cela tout mélangé. S'ils font cela, les gens à l'extérieur ne le comprendront pas. Alors, nous devrons prendre cela de cette manière. Alors, si quelqu'un veut bien sortir de la pièce et me signaler là, Junior, lorsqu'ils seront prêts à tourner les bandes, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous les gens, je le redis, pour toute votre bonté et tout. Très bien, nous sommes prêts maintenant. Vous pouvez partir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être ici dans le tabernacle encore ce soir. L'endroit rempli avec beaucoup de gens qui se tiennent tout alentour encore ce soir, avec trois jours ou trois fois des réunions. Je voudrais que si quelqu'un écoute cette bande, qu'ils reviennent chercher la bande d'hier soir. Étudiez-la à votre maison. C'est l'état présent du ministère que le Seigneur m'a donné. Et spécialement, j'aimerais que les ministres entendent cela avant que je visite leurs églises et que je vienne dans leur demeure. Maintenant, je voudrais qu'ils se procurent cela. Maintenant, ce matin, nous avons parlé sur ce sujet du compte à rebours. L'Église prête à partir. Et maintenant, ce soir, Dieu voulant, nous parlerons sur le sujet en sa présence. Et oh, comme nous remercions Dieu pour le privilège que nous pouvons avoir de venir en sa présence. Mais d'abord, j'aimerais que vous tourniez tous dans vos Bibles avec moi au prophète Ésaïe, le 6e chapitre du prophète Ésaïe. Nous savons tous qu'Ésaïe était un prophète majeur et un des plus grands prophètes de son temps. Il a terminé sa vie en étant scié en deux avec des scies pour un témoignage comme martyr à la puissance du Dieu Tout-Puissant. Dans le livre d'Ésaïe, le 6e chapitre, je commence au 5e verset à lire. Alors je dis, malheur à moi car, ou peut-être, je vais commencer avec le premier verset, pardonnez-moi pour cela. Commençons au premier verset, lisons jusqu'à environ le 8e verset. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des saints étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Et je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. » Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici. » Envoie-moi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense que c'est une écriture très frappante. Nous découvrons qu'en présence de Dieu, les hommes se reconnaissent comme étant pécheurs. Nous nous sentons peut-être bien lorsque nous sortons de différents endroits et nous sentons comme étant des gens assez bien. Mais si jamais nous parvenons à entrer en présence de Dieu, alors, nous voyons comme nous sommes petits. Maintenant, il n'y a pas longtemps, avec un de mes amis que j'ai eu le privilège de conduire à Christ, Bert Cowell, là-haut dans le New Hampshire, un partenaire de chasse. Nous nous tenions près de Cold Brook Falls, là-haut dans les Adirondacks. Et c'était une si grande chute géante. J'ai amené ma famille là-bas l'année dernière pour regarder cela. Très loin du chemin, vous devez marcher beaucoup pour y parvenir. Et lorsque nous avons vu cette eau bleu-vert se déversant avec une grande puissance hors des montagnes et jaillissant en bas au-dessus des rochers, Bert se tenait là et il me regarda et il dit « Mais Billy, cela fait en sorte qu'un homme se sent si petit. » Et il mesurait environ un quart de pouce, là sur son doigt. Et je dis « C'est vrai, Bert. Maintenant, c'est tout ce qu'ils connaissent quand ils parviennent en présence de Dieu, de voir sa création. Je me demande, l'homme qui a écrit « Comme tu es grand » en français « Dieu Tout-Puissant », s'il n'a pas regardé en haut un soir, regardé les étoiles comme elles sont lointaines. Il y a quelques mois, frère Fred et frère Woods et moi, nous nous tenions avec frère McKelly dans le désert d'Arizona. Nous mesurions, essayant de mesurer une étoile, combien elle pouvait être près de l'autre. Et avec les millions et milliards de milles de loin, elle ne semblait pas plus d'un quart de pouce l'une de l'autre. Alors nous avons commencé à penser, selon la preuve scientifique de cela, ces étoiles sont probablement plus loin l'une de l'autre que nous ne le sommes d'elles. Voyez comment cela est? Alors nous réalisons combien petits nous sommes, lorsque nous réalisons combien grand il est, et combien près, lorsque nous venons d'entrer en sa présence. D'une manière ou d'une autre, cela a toujours eu un grand effet sur les gens, de rentrer dans la présence de Dieu. J'ai vu le temps dans mon ministère où vous pouviez voir la présence de Dieu arriver d'une telle manière que cela emportait une personne là et cela révélait tout simplement leur vie, exposait leurs péchés, toutes sortes d'actes immoraux et cela apportait un tel silence, plein de respect parmi les gens qu'ils sortaient de la ligne de prière avant même de venir faire prier pour eux. Ils couraient à l'autel pour se mettre en ordre avec Dieu avant d'entrer en sa présence. Voyez, il y a quelque chose concernant le fait d'entrer dans la présence de Dieu qui fait en sorte que des choses se produisent. J'ai vu des gens couchés dans des lits et des civières, comme ce soir-là au Mexique, lorsque ce petit bébé mort étendu sous une couverture que cette petite mère espagnole avait apporté, ou une petite mère mexicaine plutôt, avait apporté. Lorsqu'ils ont vu, plusieurs milliers de ces gens ont vu, peut-être 50 ou 75 000 à une réunion, ont vu ce petit bébé mort revenir à la vie, des femmes perdaient connaissance, des gens élevaient les mains et criaient. Pourquoi? Ils ont réalisé qu'un être humain ne peut pas faire cela, qu'ils étaient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et cela a fait que quelque chose se produise. J'ai eu le privilège d'entendre parler de saints hommes. Il fut dit une fois de Charles Finet, un tout petit homme qui n'avait jamais pesé plus de 110 livres, environ 50 kilos. Mais il avait une telle manière puissante de parler jusqu'à... Il essayait le système de son un jour dans le bâtiment. Il n'avait pas un système de haut-parleur en ce temps-là. Il y avait un homme qui réparait là en haut dans un balcon ou en haut dans le plafond de l'édifice. Et il entendit cet homme entrer. Alors il ne savait pas qui il était. Il s'est tenu tout simplement tranquille. Et M. Finet était là pour essayer l'acoustique du bâtiment. Après avoir passé beaucoup de temps en prière pour ce réveil qu'il devait tenir, il commença à essayer sa voix pour voir comment elle porterait. Il se glissa rapidement à la chaire et dit « Repentez-vous ou périssez !» Et il le dit avec une telle force, après avoir été sous l'onction de Dieu, que l'homme est tombé du haut du balcon jusque là, en bas sur le plancher, du haut de l'édifice jusqu'en bas là, sur le plancher. Et il prêchait l'évangile d'une telle manière qu'il se tenait à Boston, Massachusetts, dans une petite baie vitrée, car il n'y avait pas d'église qui pouvait contenir la foule. Et il se tenait là avec une telle force puissante et prêchait que l'enfer était un tel endroit que des hommes travaillant avec leur panier sous le bras tombaient dans la rue et criaient pour la miséricorde. En présence de Dieu, de grands prédicateurs qui ont pu, par la parole de Dieu, amener la présence de Dieu à un auditoire. Loin de là que les hommes deviennent si endurcis dans leur cœur qu'ils ne puissent jamais reconnaître la présence de Dieu. Loin de là, lorsque le premier homme, aussitôt qu'il eut péché et fait quelque chose de mal, quand Dieu vint en sa présence, ou plutôt, quand il vint dans la présence de Dieu, Adam, il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Il courut et s'enfuit, se cacha dans le buisson, il essaya de se couvrir lui-même avec une feuille de figuier. Parce qu'il savait qu'il se tenait en présence de Jéhovah, le Créateur. Voilà la réaction du premier homme après qu'il eut péché et qu'il essaya d'entrer en présence de Dieu avec le péché sur son âme. Il ne pouvait pas se cacher parce qu'il était encore tendre. Le péché n'était pas encore ancré en lui comme il est enraciné maintenant dans le cœur des gens d'aujourd'hui. Il était très conscient qu'il se tenait devant son Créateur. Alors, il se cacha lui-même dans les buissons et ne voulait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir jusqu'à ce que Dieu ait fait propitiation pour lui. Nous pourrions revenir et prendre Genèse, le 17e chapitre et le verset 3. Lorsque le grand patriarche Abraham, lorsqu'il vint en présence de Dieu, et Dieu lui parla dans le 17e chapitre, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, Abraham tomba sur sa face. Ce grand patriarche, ce serviteur de Dieu ne pouvait pas se tenir en présence de Dieu, bien qu'il l'ait servi pour 25 ans fidèlement. Mais lorsque Dieu se plaça dans sa présence, le patriarche tomba sur sa face parce qu'il ne pouvait pas se tenir en présence de Dieu. Dans le livre de l'Exode au 3e chapitre, nous découvrons que Moïse, le grand serviteur et prophète de Dieu, lorsqu'il était tout à fait dans le fin fond du désert, cet homme était un homme saint. Il était né dans un but, pour ce but. Il était né dès le ventre de sa mère pour être un prophète. Il avait essayé d'avoir son éducation, de faire tout ce qu'il pouvait pour délivrer son peuple. Mais lorsqu'il eut compris cela par un point de vue théologique, où il était entraîné, il était bien intellectuel, il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens, et ils étaient les gens les plus rusés et les plus futés au monde. Il connaissait tous les coins et recoins, il connaissait les Écritures de A à Z, il connaissait les promesses que Dieu avait faites, il les connaissait d'un point de vue intellectuel, il était un grand homme militaire. Mais un jour, là, au fond du désert, lorsqu'il entra en présence de Dieu, il arracha ses souliers et il tomba aux pieds du Seigneur, sachant qu'il était sur une terre sainte. Il ne pouvait pas se tenir là, debout sur ses pieds, lorsqu'il entra en présence de Dieu. Il tomba sur sa face, comme Abraham le fit. Il ne pouvait pas se tenir en présence de Dieu. Dans Exode 19:19, lorsque le peuple choisit de Dieu, depuis très très loin en arrière, dans les jours d'Abraham, d'Abraham vint Isaac, d'Isaac vint Jacob, de Jacob vinrent les patriarches, et année après année, c'était développé de saints hommes, de grands hommes, un peuple choisi, une race choisie, un peuple saint, sanctifié. Ils avaient servi Dieu avec leur vie. Un jour, Dieu dit, « Rassemble Israël, ici, car je vais leur parler. » Mais lorsque Dieu descendit sur le sommet du mont Sinaï, toute la montagne prit feu, la fumée s'en envolait comme une fournaise, et la voix de Dieu s'écria, « Israël tomba !» Ils tombèrent tous sur leur face et ils dirent, « Que Moïse parle et pas Dieu, sinon nous mourrons. » L'homme, en présence de Dieu, réalise qu'il est un pécheur. Bien qu'ils étaient tous chacun d'eux circoncis selon la loi, ils avaient apporté les commandements et tout, mais lorsque Dieu parla et ils s'approchèrent en sa présence, ils réalisèrent qu'ils étaient en dehors. Ils n'étaient pas justes. Il y avait quelque chose qui manquait à Israël, parce qu'ils étaient en présence de Dieu. Oui, et ils dirent, que Moïse parle, et pas Dieu, car si Dieu parle, nous mourrons tous, que Moïse nous parle. C'est dans Luc 5:8 que lorsque Pierre, oh, il était un grand homme entêté, un homme de grande influence, une grande puissance, si nous comprenons bien. Il était comme un fanfaron, un pêcheur remarquable. Mais lorsqu'il vit un miracle de Dieu opéré par un homme ordinaire, semble-t-il, il reconnut à ce moment-là que cela prenait plus qu'un homme pour jeter tous ses poissons dans un filet, là où lui, avec toute son éducation, sa connaissance de la pêche, il avait pêché toute la nuit, il n'avait même rien pris. Mais il entendit quelqu'un lui dire « Jette ton filet !» Et lorsqu'il commença à tirer, il y avait une grande multitude de poissons. Et il réalisa qu'il était un homme pêcheur. Et il dit « Éloigne-toi de moi, ô Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » Qui a dit cela? Saint Pierre, en présence de Dieu, a demandé à Dieu de s'éloigner de sa présence, car il s'est reconnu pécheur. Abraham a reconnu qu'il avait tort. Adam a reconnu qu'il avait tort. Lui qui était le Fils de Dieu, il s'est reconnu faux. Moïse s'est reconnu lui-même dans l'erreur. Israël, comme Église et nation, se sont reconnus eux-mêmes comme étant dans l'erreur. Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il n'a pas essayé de dire, maintenant je suis saint et digne de recevoir ceci. Il a dit, je suis un homme pécheur. Un jour, un soi-disant bigot, un momien, un homme religieux, avec toute la théologie qu'il pouvait apprendre, sous un grand enseignant appelé Gamaliel. Son nom était Saul de Tarse. Nous le connaissons comme étant Paul. Religieux à fond. Il connaissait les coins et les recoins de leur religion. Il était un pharisien parmi tous les pharisiens, un hébreu des hébreux. C'était un homme remarquable, un érudit, futé, judicieux, éduqué, proclamant qu'il connaissait Dieu depuis qu'il était bébé. Mais un jour, sur sa route allant vers Damas, cette colonne de feu brilla sur lui et il tomba sur... Oh, il ne put pas rester sur ses pieds. Il tomba sur le sol dans la poussière et il dit, Seigneur, que voudrais-tu que je fasse? Toute sa grande éducation, tout son grand entraînement théologique, toute son éducation ne valait plus rien lorsqu'il se tint en présence de Dieu. J'aimerais m'arrêter ici une minute et dire que c'est la même chose. Vous avez peut-être un diplôme en théologie, un diplôme en philosophie. Quoi que vous ayez, quoi que vous soyez, vous avez peut-être été à l'église depuis que vous êtes enfant. Vous avez peut-être accompli tous les actes religieux qui existent, mais une fois en présence de Dieu, vous vous sentirez si petit et sans valeur. Paul a réalisé qu'il avait tort, et il est tombé par terre sous l'influence et la puissance. Lorsqu'il regarda en haut, il vit le Dieu même duquel il prêchait, contre lequel il prêchait, le Dieu dont il pensait savoir qui il était. Il pensait qu'il savait, il vit qu'il était faux. Il tomba, il ne pouvait pas rester sur ses pieds, il tomba au sol parce qu'il était en présence de Dieu. Il a vu cette colonne de feu. Et qu'en est-il du grand saint Jean de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7? Lorsqu'il lui fut montré la vision, il regarda, il entendit une voix lui parlant. Il se tourna pour regarder la voix et il vit sept chandeliers d'or. Et là, il se tenait au milieu des sept chandeliers d'or, avec des cheveux comme de la laine, les yeux comme des flammes de feu, les pieds comme des piliers d'airain. Il était saint avec une ceinture d'or sur la poitrine. Et il était appelé la parole de Dieu. Et lorsque le grand saint Jean, lui qui avait marché avec Christ, qui avait penché sa tête sur sa poitrine, lorsqu'il eut fait toutes ces choses, comme j'ai dit ce matin, le ministère de Paul les a tous surpassés. Mais ici, après que Jean eut marché avec Jésus, parlé avec lui, dormi avec lui, mangé avec lui, mais lorsqu'il le vit, se tenant là dans cet état glorieux, il a dit qu'il tomba comme un homme mort à ses pieds. Amen. Pensez-y. Nous pouvons venir à l'église et parler et chanter les louanges de Dieu et ainsi de suite. Mais, ô frère, lorsque nous le voyons venir, quelque chose sera différent dans nos cœurs. Nous pensons peut-être que nous faisons notre devoir religieux en allant à l'église et payer nos dîmes. Nous pensons peut-être que nous gardons les lois de l'église. Nous récitons tous les credos. Mais une fois, jetons nos regards vers lui. Alors, à ce moment-là, toute la chose est complètement changée. Oui, c'est certain. Ce grand homme, Saint Jean, un grand homme comme cela, la Bible dit dans Apocalypse 1:7, qu'il tomba comme s'il était un homme mort. Après 3 ans et demi de communion avec Christ, étant un des écrivains des Épîtres, il avait écrit à son sujet, manger avec lui à table, dormir avec lui au lit, fraterniser avec lui partout où il allait. Mais lorsqu'il s'est tourné pour le voir, il n'y avait plus de vie en lui. Il tomba comme un homme mort au plancher ou au sol. Très bien. Nous voyons Ésaïe, dans Ésaïe 6, 5, ce que nous venons de lire. Ce grand puissant prophète, il est un des plus grands prophètes qu'il y a dans la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible. Il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Ésaïe, cela commence dans la Genèse. Le milieu d'Ésaïe nous introduit dans le Nouveau Testament. Et à la fin d'Ésaïe, cela nous introduit dans le millénium. C'est vrai, la Genèse, le Nouveau Testament est l'Apocalypse. Parfaitement. Ésaïe était un des prophètes majeurs. Mais un jour, il s'appuyait sur le bras de Ozias, le grand roi, et Ozias fut enlevé de lui. Et il fut abaissé. Il était un brave homme. Il était un homme bon et juste. Si ce roi juste, un bon roi, le reconnaissait comme un homme saint, il le gardait dans son temple. Ésaïe voyait des visions. Il était prophète. Ésaïe prêchait la parole. Il était un ministre. Ésaïe était un homme saint. Mais un jour, se tenant dans le temple, il tomba comme dans une transe et il vit la gloire de Dieu. Il vit les anges avec des ailes sur leur face, des ailes sur leurs pieds, volant avec des ailes, criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant !» Alors ce prophète réalisa qu'il n'était rien. Il dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures !» Un prophète, un puissant prophète de la Bible, l'un d'entre eux, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, malheur à moi !» car j'ai vu la gloire de Dieu. Et il est dit que cet ange s'écria, les portes furent ébranlées dans leur fondement à ce moment-là. Frère, cela vous formera. Non seulement les portes du temple vont être ébranlées lorsqu'il reviendra, mais les montagnes se sauveront et la mer s'évanouira. Et criera, ils crieront, cache-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. Ce sera un temps terrible. Je vous le dis, amis pécheurs, vous feriez mieux de faire le point. Maintenant, c'est vrai. Ésaïe a dit, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite parmi un peuple impur, et je suis ces gens des lèvres impures. Maintenant, rappelez-vous, si de tels hommes saints se sont reconnus comme pécheurs dans la présence de Dieu, que feront le pécheur et l'impie en ce jour? Que feront les gens qui s'assoient dans nos réunions? Que feront les gens qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu le compte à rebours de la parole, qui ont vu Dieu se manifester lui-même, et sans l'ombre d'un doute chaque écriture accomplie, et qui essayent encore de se rendre au ciel sans être vraiment nés de nouveau, et sans avoir reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, où se tiendront l'impie et l'inique? Dans quelle sorte de lieu nous tiendrons-nous si nous voyons Dieu se dévoiler lui-même juste devant nous, si nous voyons la gloire de Dieu, tout comme ces hommes l'ont vu? Et cette sorte d'hommes-là, ce sont écriés des prophètes, des sages, sur lesquels la parole est bâtie. Ils se mirent à crier, ils tombèrent, ils ne purent pas rester sur leurs pieds, ils s'écrièrent, « Je suis un homme aux lèvres impures, l'impureté !» Quand sera-t-il pour cet homme qui ne veut même pas confesser ses péchés? Quand sera-t-il pour cet adolescent qui ne veut pas confesser ses péchés? Quand sera-t-il pour cet homme au cœur dur qui pense qu'il connaît plus la création de Dieu que Dieu lui-même? Qu'arriva-t-il à cet homme qui a dépensé toute sa vie essayant de réfuter la Bible? Où cet homme se tiendra-t-il? Pensez-y. Ceci est l'évangélisation. Ceci est le temps pour secouer les gens. Ceci est le temps où Dieu a dit qu'il viendrait un temps, il ébranla le mont Sinaï une fois, mais il viendrait un autre ébranlement, qu'il ébranlerait non seulement le mont Sinaï, mais qu'il ébranlerait tout ce qui est ébranlable. Mais avez-vous remarqué le reste de l'Écriture? Mais nous recevrons un royaume qui ne peut être ébranlé. Alléluia! Tout ce qui peut être ébranlé le sera. Les cieux de la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Car sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, mais nous recevons un royaume qui est la parole de Dieu. C'est lui-même, et Dieu est sa parole. Il ne s'ébranle pas lui-même. Amen. Oh, mais nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. C'est inébranlable, dit Paul, l'écrivain des Hébreux. Une telle personne, un tel homme, un tel temps, et comme il se sentait. Et nous aussi, nous avons vu la gloire de Dieu, comme ces hommes l'ont vu certainement. Nous l'avons vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l'a vu. Nous avons vu la gloire de Dieu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu, la même puissance de Dieu, le même Christ, se révélant lui-même, se montrant lui-même, gardant sa parole dans les derniers jours. Alors comment pouvons-nous venir marcher, nous avançant, le traiter si légèrement? Comment pouvons-nous nous promener et nous agripper à nos credos et à nos dénominations et ne pas prendre la parole de Dieu? Qu'en sera-t-il pour nous en ce jour-là? Comment cela arrivera-t-il pour nous alors que nous avons vu la gloire de Dieu? Il y a certaines personnes qui se tiendront et qui ridiculiseront cela, ils riront de cela. Certains appelleront cela du fanatisme, certains l'appelleront la télépathie mentale, certains appellent cela Belzébul, certains appellent cela une chose ou une autre. Comme le vieux proverbe le dit, les insensés marchent avec des souliers pleins de clous là où les anges craignent même de marcher. C'est vrai, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Lorsqu'il voit Dieu manifesté si parfaitement par sa propre parole, pas par un credo, mais par sa parole, et qu'ensuite il marche et piétine cela, et il ridiculise cela, il est un insensé. Parce que Dieu est la parole, et Dieu s'est rendu lui-même simple pour eux. Et la Bible dit qu'il est un insensé. Qu'en sera-t-il pour lui lorsqu'il aura à se tenir à un tel endroit? Ce sera terrible pour cet homme en ce jour-là, pour l'impie. Pécheurs, repentants, quand bien même ils n'ont pas de crainte, oh non. Un pécheur qui se repentira, il sait qu'il y a un sacrifice sanglant qui attend et qui se tient à sa place. C'est là ce qui me donne la consolation. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai senti sa puissance, je connais le toucher de sa main, je connais le toucher de son châtiment, je sais qu'il est Dieu et je sais que je suis perdu, mais il y en a un qui se tient là pour moi. Amen. Il y en a un qui se tient là et qui dit, Père, place toutes ces iniquités sur moi parce qu'il s'est tenu pour moi là en bas sur la terre. Alléluia. Alors, je me suis avancé vers le trône de Dieu avec assurance, ayant la grâce dans mon cœur, sachant que ce n'est pas par les bonnes œuvres, mais par sa miséricorde que je suis sauvé. Pas ce que je peux faire, pas ce à quoi je peux appartenir, ce que je peux dire, mais c'est par sa grâce qu'il m'a sauvé. Ce n'est pas étonnant que le poète ait saisi cela quand il s'écria « Grâce étonnante, combien le son en est doux, qui sauva un pécheur comme moi. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé, aveugle, mais maintenant je vois. » Comment pourrais-je jamais aller au ciel? Comment pourriez-vous aller au ciel? Nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a aucun moyen qui nous permette de le faire. Mais il y en a un qui a fait le chemin. Et il est le chemin. Et comment pouvons-nous arriver jusqu'à lui? Par un esprit, son esprit. Nous sommes baptisés dans un corps qui sera élevé dans une orbite. Nous sortirons de la terre comme des astronautes de ces derniers jours jusque dans la face de Dieu. Amen. Certainement. Les pécheurs repentants n'ont pas à s'inquiéter. Quelqu'un est là-bas à leur place. Oh! Et alors après que nous sommes venus en sa présence maintenant, nous avons connu que nous étions en sa présence, nous avons vu faire des choses qu'il a faites lorsqu'il était ici sur la terre. Comment savez-vous, comment pouvez-vous reconnaître la vigne que vous regardez? Parce qu'elle emporte le fruit. Comment pouvez-vous reconnaître l'église à laquelle vous allez? Par le fruit qu'elle produit. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Maintenant, nous voyons qu'il ne nous a jamais ordonné pour que nous allions créer des dénominations. Il ne nous a jamais ordonné pour faire des credos, mais il nous a mis en garde contre cela. Car quiconque ajoutera ou retranchera de cela, leur part sera enlevée dans le livre de vie. Voyez-vous ? Alors nous ne sommes pas ordonnés pour faire rien d'autre que de rester avec cette parole. Et si un homme est envoyé de Dieu, il restera avec la parole. Voyez-vous ? Voyez, il doit rester avec sa parole. Alors lorsque nous venons en sa présence, lorsqu'un homme vient une fois en présence de Dieu, il est changé pour toujours, s'il y a un changement en lui. Maintenant, il y en a qui peuvent marcher en présence de Dieu et ils ne prêtent même pas attention à cela. C'est qu'ils n'étaient pas ordonnés à la vie. Mais s'il était prédestiné de Dieu, aussitôt que ce premier mouvement le frappe, il le sait. Cela prend feu. Regardez la petite prostituée là-bas en ce jour, à Samarie, cette femme. Elle était dans un mauvais état mental et physique. Nous savons cela. Mais aussitôt qu'elle a vu ce signe démontré du Messie, elle a dit, nous savons que le Messie vient pour faire cela. Tu dois être son prophète. Il dit, je suis ce Messie dont il est écrit qu'il doit venir. Elle reconnut cela. Elle n'a plus posé de questions. Elle a commencé rapidement avec sa responsabilité de savoir que si elle avait découvert cela, qu'elle était entrée en présence de Dieu, elle était responsable de le dire à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est vrai. N'importe quel homme qui vient en présence de Dieu est responsable devant Dieu à partir de cette minute de le dire à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Dès le moment où ils sont entrés en présence de Dieu, ils se sont reconnus comme des pécheurs et ils ont scellé leur témoignage par leur vie. Regardez la petite dame, elle ne pouvait plus tenir en place. Elle est allée à la ville, elle a dit aux hommes, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie ?» Ils ne pouvaient le nier parce que c'était scripturaire, certainement. Oui, vous devez le faire. Un homme, quand nous avons reçu une responsabilité de le dire aux autres, comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après ces choses, vous l'avez vu, vous êtes entré en sa présence. Vous êtes responsable de ce que le message se rende à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas rester tranquille avec cela. Vous devez le transmettre à quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une vieille sœur qui était avec nous ici, la maman de frère Graham Snelling. Elle avait l'habitude de s'asseoir ici dans l'église. Elle chantait, « Je viens de traverser, je cours, 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 et je viens de traverser, et je ne peux pas m'asseoir. » Elle venait de trouver quelque chose. Je suis allé à une petite église de gens de couleur, ici à Louisville, et ils se tenaient tous debout chantant, « Je cours sur le chemin du roi, je viens de le trouver, et je prends le chemin. » Il y a quelque chose à propos de cela lorsque vous trouvez Christ. Vous ne pouvez plus garder votre paix. Pour le reste de vos jours, vous êtes une personne changée. Car lorsque la vie et la vie se rencontrent, cela fait une brillante lumière. C'est vrai. Lorsque l'ampoule est branchée avec le fil, c'est une ampoule correcte. Elle doit donner de la lumière. Et lorsque le courant et l'ampoule s'unissent ensemble, il n'y a rien d'autre à faire que de propager la lumière. Cela doit se faire. Et lorsqu'un homme ou une femme est prédestiné à la vie éternelle, et il voit le courant de Dieu frapper cette ampoule, cela dégagera la lumière partout où cela pourra. Vous ne serez peut-être pas plus qu'une dix-watts, mais vous ferez jaillir la lumière que vous aurez. Si vous n'êtes pas une 500 watts, propagez la lumière d'une 10 watts. Donnez votre lumière. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père Céleste. Oui, monsieur. Lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, il se reconnaît comme étant un bon à rien. Comment un homme peut-il se promener, se vanter, disant qu'il est grand et tout ce qu'il a fait, lorsqu'il n'est rien? Il n'est rien pour commencer. Un jour là-bas, à Memphis, c'était dans l'un de ces endroits, j'étais avec frère Davis et j'avais un réveil, peut-être à Memphis. Et nous sommes allés dans un grand colisée. Il y avait là, non pas un colisée, c'était comme une galerie d'art. Et ils avaient les grandes statues qu'ils ont de différentes parties du monde
où les différents Hercules et ainsi de suite, de grands artistes avaient peint. Et ensuite, ils avaient l'analyse d'un homme qui pesait 150 livres. Savez-vous à combien il était évalué? 84 cents. C'est tout ce qu'il est. 84 cents. C'est tout. Tous les produits chimiques que vous pouvez obtenir de lui, il y a juste assez de chaud pour asperger un nid de poule. Il y en a juste assez. Juste un peu de calcium, un peu de potassium. Cela se vendrait tout pour 84 cents. Mais nous prenons bien soin de ce 84 sous et nous le dorlotons. Et il y avait deux garçons assis là. Et un regarda l'autre et dit, « Jim, on ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas ?» Il dit, « Non, pas grand-chose, John. » J'ai dit, « Mais attendez une minute, les gars. Vous avez une âme là-dedans qui vaut 10 000 mondes. S'il pouvait exister, étant racheté par la puissance de Dieu, si vous voulez bien la laisser entrer en vous. Oh, l'homme, lorsqu'il voit ces choses, il est responsable de le dire aux autres. Je l'ai vu quand j'étais juste un jeune garçon. J'ai dépensé toute ma vie pour cela. Je regrette seulement d'avoir juste une vie. J'aimerais en avoir 10 000. Si j'avais une éternité, je voudrais encore en parler aux gens, car c'est la plus glorieuse chose que j'ai jamais trouvée. Si vous lisez dans Ézéchiel 33, le 33e chapitre d'Ézéchiel, il y avait une sentinelle dans la tour de contrôle, et la tour de garde, et cette sentinelle était responsable pour la cité entière. Amen. Maintenant, réveillez-vous de votre conscience spirituelle une minute, pendant que je prends cette écriture. Cette sentinelle devait être un homme entraîné, il devait savoir ce qu'il faisait. Car à n'importe quelle distance, aussitôt qu'il s'élevait, l'ennemi, il pouvait le détecter. Il pouvait discerner leur marche, il pouvait discerner leur couleur, il pouvait discerner leur tout venant. Aussi loin que l'œil humain pouvait voir, il pouvait le voir. Et il était plus haut que les autres, car il était entraîné à reconnaître l'ennemi. Et Dieu exigeait que toute la ville soit dans sa main. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Alléluia! C'est de la manière que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont entraînés dans la parole. Quand quelque chose survient, qui a reçu un peu de polissage, qui a quelque chose d'autre qui n'est pas l'écriture, ils avertissent leurs assemblées. N'importe quelle chose qui n'est pas la Bible, n'importe quoi qui n'est pas comme Dieu, comme avoir des soupers de soupe, des danses et autre chose pour payer les pasteurs, ces choses sont fausses. Des jeux de bingo, des parties de cartes dans l'église, c'est faux. Et la vraie sentinelle sur le mur, qui a déjà été en présence de Dieu, s'il n'est pas là-haut sur le mur, il est supposé être sur la muraille. La muraille n'est peut-être pas plus haut que le reste de la congrégation, mais s'il est une bonne sentinelle, Dieu l'élève dans des sphères où les autres ne peuvent jamais atteindre. Mais il surveille le troupeau. Dieu l'exige de lui. L'homme de Dieu qui se tient en présence de Dieu et qui sait que Dieu est Dieu et qui sait que Dieu garde sa parole, il surveille Dieu en train de se manifester lui-même et il fait son devoir et il garde sa parole et ensuite, peu importe combien d'organisations ou de dénominations essaient de détruire cela, il connaît tout ce qui vient de l'ennemi. Amen. Il sait quoi dire à la congrégation. Une vraie sentinelle. Si nous avons confessé qui il est, nous sommes allés en sa présence et nous avons confessé nos péchés, alors ils sont effacés du livre de sa mémoire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Maintenant, vous pouvez me faire n'importe quoi, je vous pardonnerai. Mais je m'en souviendrai. Si je vous faisais quelque chose, vous me pardonneriez, mais vous vous en souviendriez. Mais Dieu peut pardonner et oublier cela. Pensez-y. Il ne s'en souvient pas. Amen. Cela fait que je me sens bien. Quand on ne s'en souvient plus, il n'y a rien que Dieu puisse faire de cela. Rien que Dieu peut faire. Il n'y a même que Dieu qui puisse faire cela. Il a dit qu'il l'effacerait de son livre de mémoire. Je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Car nous n'avons que ces petits sens limités. Mais il est infini. Il est Dieu. Il peut absolument oublier que cela a été fait. Amen. Une jeune femme vint d'une église de campagne. Son père était à l'ancienne mode, un prédicateur de ceux qui criaient. Et elle était alors un membre d'église. Alors elle déménagea à la ville. Elle se mêla avec les femmes là-bas. Elle commença à agir comme les autres et suivre les modes. Et un jour, elle avait un peu honte que son père et sa mère viennent à la maison. Alors son père, plutôt, sa mère était morte. Alors le vieil homme, la seule chose qu'il faisait, il se levait le matin, il mangeait, prenait son petit déjeuner, il prenait la Bible et il la lisait. Et il pleurait et il criait toute la journée. Et il courait de long en large dans la chambre. Elle avait un peu honte de cela. Alors, parfois, dans la nuit, il s'emparait de la Bible, commençait à la lire. Il se levait de son lit et criait, « Gloire à Dieu! Alléluia! Oh, gloire à Dieu !» Il sautillait et pleurait la moitié de la nuit. Et un jour, elle voulait divertir ses membres d'église à une petite partie de thé, comme ils en ont toujours, vous savez. Alors, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire, ce qu'elle allait faire avec son père. Elle décida qu'elle l'enverrait dans le grenier. Et elle lui dit, « Papa, tu ne voudrais quand même pas être là autour quand toutes ces femmes seront là, n'est-ce pas ?» Il dit, « Non, je ne crois pas que je veuille cela. » Elle dit, « Bien, alors, nous allons avoir les femmes de l'église ici aujourd'hui. Nous allons avoir une petite réunion de prière. Alors, dis donc, papa, pourquoi ne vas-tu pas au grenier ?» Il dit, « Je crois que c'est ce que je vais faire. » Alors, elle dit, « Lis ce beau livre. » Et elle lui donna un livre de géographie. Elle lui enleva sa Bible pour qu'il se tienne tranquille. Elle savait que s'il lisait la Bible, alors il commencerait à faire bien du bruit là-haut. Alors il monta là, au-dessus d'elle, vous savez, et elles avaient leur partie de thé. Alors, elle lui donna la géographie disant, « Ceci est beau, tu devrais le lire, papa, parce que cela raconte toute la vérité sur le monde. Eh bien, je serais fier de lire cela. » Alors elle dit, « Maintenant monte là-haut et reste bien tranquille, jusqu'à ce que ces dames s'en aillent, alors tu pourras redescendre ensuite. Tu peux faire alors ce que tu veux. » Il était d'accord de faire cela. Le voilà qui monte là-haut, qui s'assoit là. Et elles avaient leur petit après-midi de thé, vous savez, parlant de tel et tel, et vous savez comment ça se passe, ayant tout ce grand temps. Et à ce moment-là environ, quelque chose commença à tomber d'en haut. Le plâtre tombait du plafond. Et tous ces cris et ces sauts, là-haut dans le grenier, le vieil homme courait. Aussi fort qu'il le pouvait, sautant de haut en bas, criant, « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Les dames ne savaient pas ce qui se passait là-haut. Qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Alors le voilà directement descendant les marches, aussi fort qu'il le pouvait. Elle lui dit, « Papa, je t'ai donné une géographie à lire. » Il dit, « Oui, je sais, mais tu sais, dit-il, j'ai lu dans cette géographie ici qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. » Eh, dit-il, j'ai lu ici dans la Bible hier qu'il a dit qu'il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Gloire à Dieu! Oh, il a dit, et ils y sont encore, parce qu'ils s'en vont encore, il n'y a pas de fin, ils continuent simplement de s'éloigner de moi, de s'en aller. C'est vrai, et ils criaient à propos de cela. Eh bien, c'est vrai, Dieu mène nos péchés dans la mer de l'oubli, il les efface. Et c'est comme si ce n'est jamais arrivé. Oh! Ensuite, on se tient, par la grâce de Dieu, au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint, aussi saint qu'il est saint. Parce qu'il ne me voit pas. Lorsque je monte là-haut, il voit son propre Fils. C'est la seule manière qu'il peut voir. Il ne peut pas me voir, parce que je suis en son Fils. Et il voit seulement son Fils. N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons plus à penser au péché. Tout est parti, c'est sous le sang. Oui, monsieur, plus besoin de vous inquiéter. Tout est sorti, tout est parti de la mémoire de Dieu. Il ne s'en souvient même plus. Ésaïe, ce puissant prophète, quand il confessa ses péchés, il dit, « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Un prophète, je suis un homme aux lèvres impures, et mon assemblée est impure. Le croyez-vous? Les gens à qui je prêche sont impurs, je suis impur, et malheur à moi! Et voici qu'arrive un groupe d'anges descendus de la gloire de Dieu, éventant les nuages, et je regardais là-haut, et j'ai vu les pans de sa robe remplissant tout le ciel. Et j'ai surveillé ces anges, qui n'ont jamais connu ce qu'était le péché, ils n'ont jamais su ce qu'était le péché, et ils sont en présence de Dieu, et ils ont deux ailes dont ils se couvraient leur visage. Ils avaient deux ailes dont ils se couvraient les pieds. Et ils volaient avec deux ailes. Et ils crient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu !» Ouh, cela vous ferait vous sentir pas trop saint, n'est-ce pas? Maintenant, qu'a-t-il fait? Il a dit, « Malheur à moi !» Et quand il confessa ses péchés et dit, « Malheur à moi !» L'ange alla, prit les pincettes et ramassa un charbon ardent qui représente le Saint-Esprit et le feu, vint et le déposa sur les lèvres du prophète et dit, « Je t'ai purifié. » Ensuite, les ailes battaient l'air d'une certaine manière, ils ont repoussé les rideaux du temps et il entendit Dieu dire, « Qui ira pour nous ?» Mais après qu'il eut découvert qu'il y a un moyen de se débarrasser du péché, Dieu voulait que quelqu'un aille pour lui. Et il dit, « Me voici, envoie-moi. » Il avait été dans la présence de Dieu. Il avait confessé ses péchés, il avait été lavé de ses péchés, et il était prêt pour le service. Amen. Quand le poète a saisi cela, il a dit, « Des milliers maintenant meurent dans la honte et le péché. Entendez leurs cris amers et tristes. Hâtez-vous, frères, hâtez-vous d'aller à leur secours. Répondez vite, maître, me voici. » Quand je pense à l'Afrique, l'Inde et autour du monde, des millions de païens qui sont en train de crier, qui pleurent pour la miséricorde, et qui ira, pas pour leur distribuer des traités, mais pour les conduire à Jésus-Christ, quelqu'un en sa présence comme Moïse, qui pourrait descendre là-bas et leur montrer la vraie délivrance. Pas pour les amener à joindre une église ou à serrer la main de quelqu'un et avoir un credo, mais pour leur apporter la délivrance pour leur âme. De bons hommes saints. Oui, Ésaïe confessa ses péchés et il fut purifié. Après que Jacob eut lutté toute la nuit en confessant ses péchés, vous vous rappelez le lieu où il était? C'était appelé Péniel. P-E-N-I-E-L. Péniel. Le mot Péniel en hébreu veut dire la face du Dieu Tout-Puissant. Jacob, le petit escroc, il avait couru tout. Son nom était Jacob, ce qui veut dire supplanteur, un trompeur. Il s'était enfui de Dieu toute sa vie. Mais lorsqu'il vint une fois en présence de Dieu à Péniel, dans la face de Dieu, il s'est agrippé à Dieu. Il ne voulait pas le lâcher. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Il se tint devant la face de Dieu, en présence de Dieu. Il resta jusqu'au lever du jour. Et Dieu dit, laisse-moi aller parce que le soleil se lève. Et il resta devant la face de Dieu jusqu'au lever du jour. Mais il s'en retourna justifié et sauvé. Le soleil. Oh, quelle glorieuse chose ce fut maintenant de savoir qu'il avait lutté, qu'il avait vu les signes de Dieu, il avait eu des songes venant de Dieu. Mais ceci était la foi où il fut devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Pensez-y, amis, maintenant, alors que nous nous dépêchons. En présence de Dieu, un homme est changé. Jacob fut changé. Maintenant, il pouvait marcher avec Dieu. Oui, il était un homme différent de ce qu'il était lorsqu'il est monté là-haut. La bataille était maintenant terminée, oui, monsieur. Et il commença à bâtir un autel. Il n'était pas habitué à bâtir des autels, vous savez. Mais je vous dis, lorsque vous entrez en présence de Dieu, vous voulez bâtir un autel quelque part. Vous voulez trouver un endroit où vous pouvez prier. Il bâtit un autel, il était purifié, et Dieu avait gagné. Et Jacob fut changé de Jacob, supplanteur, en Israël, un prince ayant la puissance avec Dieu. C'est ce qui arriva à Jacob. Le supplanteur, le trompeur, il trompa son frère. Il lui enleva ses droits d'aînesse, comme ce fut le cas de son frère. Il prit un petit moyen sale pour faire cela. Oh, quel trompeur! Il a trompé son beau-père. Il avait placé des branches et cela produisait des veaux tachetés lorsque les vaches étaient en chaleur et qu'elles montaient là. Elles voyaient cela. Et les brebis verraient ce bâton tacheté, et cela faisait du bétail tacheté. Cela leur donnait des marques de naissance. Un trompeur. trompant son propre beau-père, il trompa sa mère, il trompa son père, il trompa son frère. Mais lorsqu'il entra une fois dans la... Il était une canaille. Il fuyait partout où il pouvait aller. Il se sauvait toujours de Dieu. Il se sauvait de son frère. Mais lorsqu'il entra en présence de Dieu, il reconnut qu'il était un pécheur. Et qu'a-t-il fait? Il a vu son occasion. Il avait rencontré quelque chose à quoi il n'avait jamais pensé auparavant. Il resta là jusqu'à ce que tous ses péchés soient effacés. Oh! Dieu le conduisit en sa propre présence. Dieu trouve le moyen de faire entrer un homme en sa présence. Et ensuite, ils prennent leur décision. Quelques-uns s'enfuient loin de lui. Quelques-uns courent à lui. S'ils sont prédestinés à la vie, ils le croient. Ils s'accrochent à cela. S'ils ne le sont pas, ils essayent de fuir et dire, il n'y a rien en cela. Voyez-vous, eh, ça, c'est l'homme qui est perdu. Mais celui qui confesse ses péchés obtiendra le pardon. Si vous cachez vos péchés, vous prospérerez? Non. Alors, Jacob, vous savez, lorsqu'il rencontra Ésaü, son frère, le jour suivant, il n'avait plus besoin d'aide de lui, alors. Il n'avait pas besoin de ses armées. Il était affairé à bâtir des autels. Il n'avait plus peur d'Ésaü. Le psaume 16, 8 dit, c'est David qui parle, « J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. » C'est une bonne chose à faire. Psaume 16, 8. « J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. » Alors il ne pouvait pas être confus à propos de cela. Il voulait être conscient de sa présence. Alors David dit, « J'ai placé l'Éternel toujours devant ma face. » Maintenant, moi, David, j'ai placé le Seigneur devant ma face, toujours, pour être conscient, de la présence de Dieu. Ne serait-ce pas une bonne leçon pour nous ce soir? Placer le Seigneur devant notre face afin que nous soyons conscients de sa présence. Placez-le en premier. Pourquoi? Placez-le en premier devant vous. Pourquoi? Alors vous ne pécherez pas lorsque vous réaliserez que constamment vous êtes en présence de Dieu. Lorsque vous réalisez que Dieu est là autour, vous surveillez ce que vous dites. Un homme, lorsqu'il pense que Dieu est parti, il va blasphémer, il va convoiter les femmes, il va voler, tricher, mentir, il fera n'importe quoi s'il pense que Dieu ne le voit pas. Mais conduisez-le en présence de Dieu, il cessera aussitôt, voyez-vous? Et David dit, j'ai constamment l'Éternel devant moi. C'est une bonne chose. Pas surprenant que Dieu ait dit qu'il était un homme selon son propre cœur. L'homme fera n'importe quoi quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais lorsqu'il réalise que Dieu est tout prêt, avez-vous déjà remarqué un pécheur? Laissez une personne sainte arriver, il cessera de blasphémer s'il a quelque peu de respect, voyez-vous? Il ne dira plus des histoires sales qu'il aurait dites, voyez-vous? Voyez, il laissera ces choses de côté parce qu'il sait qu'il est en présence de Dieu, parce que Dieu demeure dans le tabernacle de son peuple, voyez-vous? Et après que David eut fait cela, il a dit, « Mon cœur se réjouit. » Oh, j'aimerais que vous le lisiez, le psaume 16. « Mon cœur est dans la joie et ma chair reposera en sécurité. » Pourquoi? Mon cœur sera dans la joie parce que j'ai Dieu constamment devant moi. Et ma chair reposera en sécurité. Si je meurs, je ressusciterai. Car tu ne laisseras pas ton bien-aimé voir la corruption, ni tu ne laisseras point son âme dans l'enfer. Voyez-vous? Lorsque David plaça Dieu devant lui, il était conscient que constamment il était en présence de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Maintenant écoutez, Église, je vous aime et je veux que vous m'écoutiez maintenant. Comme frère Maculay avait coutume de dire, je vais dire quelque chose. Placez toujours le Seigneur devant vous et ne faites rien que vous ne feriez en sa présence, parce qu'il vous surveille, voyez-vous? Le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il reste tout près de vous, et il sait tout ce que vous faites, et vous devez reconnaître cela. Lorsque vous commencez à dire un mensonge, ne le faites pas! Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Si vous commencez à tricher un peu, ne le faites surtout pas! Dieu vous regarde. Si vous commencez à prononcer son nom en vain, ne le faites pas! Dieu vous écoute. Commencez à fumer une cigarette, et il vous surveille, voyez-vous? Son nous avions coutume de chanter un chant. Tout le long de la route, jusqu'à la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. Chaque pas que tu fais, ce grand œil est éveillé, il y a un œil qui te surveille. Rappelez-vous, faites comme David, placez toujours le Seigneur devant votre face. Ensuite, votre cœur se réjouira et votre chair reposera en sécurité, car il l'a promis. Oui, monsieur, il savait qu'il ressusciterait, car Dieu l'avait promis. Lorsque nous entrons en sa présence, nous sommes changés pour ne plus être jamais les mêmes. Regardez tout au long des âges, de toutes sortes de vies parmi les hommes. Regardez Abraham. Vous dites, eh bien, la vie changée, c'est juste pour les ministres, les prédicateurs. Oh non, la vie changée, c'est pour tous, voyez-vous. Or, Abraham était un fermier. Mais lorsqu'il a entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il a vu cette vision, il était un homme changé à partir de ce moment-là. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses associés. Il a marché comme un pèlerin et un étranger dans une terre étrangère pour le reste de sa vie, demeurant sous des tentes, parce qu'il a confessé clairement qu'il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. C'est ce que Hébreux 11 nous dit, qu'il cherchait une cité. Il fut un homme changé, mais il n'était rien qu'un simple fermier. Mais il a eu une vision, il est venu dans la présence de Dieu. Et il fut un homme changé à partir de ce moment-là. Moïse était un berger, mais il fut un homme changé lorsqu'il vint en présence de Dieu. C'était un lâche, il s'enfuyait de Pharaon avec toute une armée derrière lui. Mais avec un bâton dans sa main, il retourna et il prit toute la nation. Voyez-vous pourquoi ? Il entra en présence de Dieu. Il était un homme changé, lui un berger. Pierre, un pêcheur, il ne connaissait rien de la pêche, ou plutôt, il ne connaissait rien de Dieu. La seule chose qu'il savait, c'était probablement comment attraper les poissons. Mais lorsqu'il vint en présence de Dieu, et vit le grand Créateur qui pouvait créer des poissons, lorsqu'il lui dit de laisser tomber les filets pour la pêche, il n'y avait pas de poissons là. Il lui a simplement fait lever les filets. Mais il a dit, sur ta parole, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et si tu laisses, si je laisse tomber le filet, tu m'as dit de le faire à ta parole. Parce que toi et la parole, c'est la même chose. Je laisse tomber le filet. Et lorsqu'il commença de tirer le filet, il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Voyez, un pécheur, après que Pierre eut rencontré Christ. Il ne fut plus jamais le même. Après, il était si loyal envers Dieu qu'il lui fut donné les clés du royaume de Dieu. Oui, monsieur. Paul, un soi-disant pharisien éduqué et bien entraîné dans toute la religion qu'il y avait au monde en ce jour-là, un des plus grands érudits du pays, lorsqu'il arriva devant cette colonne de feu ce jour-là, le Dieu qu'il avait persécuté dans l'ignorance, il était un pharisien. Il ne croyait pas que Dieu était un homme, il savait que Dieu était la colonne de feu. Il conduisit son peuple hors d'Égypte. Il avait été avec eux tout au long. Mais lorsqu'il vit cette colonne de feu, il tomba sur sa face. Et il entendit une voix disant, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit, « Je suis Jésus. » Il était un homme qui a dit, « Comment avez-vous été baptisé ?» Il était entré en présence de Dieu. Il était un homme changé dès ce moment-là. Il était entré en présence de Dieu. Cela change un homme. Charles G. Finet, un avocat, ce grand avocat de Philadelphie, lorsqu'il entra en présence de Dieu, il abandonna son étude de droit et il devint un des plus grands prédicateurs que cette nation ait jamais eu. Espace non enregistré sur la bande anglaise, note de l'éditeur. Nous prions pour que vous receviez le Saint-Esprit. Il dit, j'ai le Saint-Esprit. Il dit, je suis prédicateur. Elles dirent, monsieur Finet, vous êtes un grand homme et vous avez une bonne compréhension de la parole. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous prions pour vous, de gentilles petites dames. Alors il continue à aller de l'avant. Et tous les jours, il est là-bas derrière son bureau, son patron et tous les autres travaillaient là. Et il sortit de son bureau de loi, Il allait là-bas dans un coin pour prier. Et un jour qu'il était là, qu'il priait, il entendit comme un bruit dans les buissons. Il pensa que son patron arrivait, le cherchant. Il se releva bien vite. Et il a dit, Seigneur Dieu, oh, je crois, je le crois. Il arrêta, se secoua avant de... Il se leva et il dit, regarda tout alentour, regarda ce qui avait fait du bruit dans le buisson. Et c'est alors qu'il entra en présence de Dieu. Il réalisa que ce buisson avait été brisé pour un but. Il se tenait là, les larmes coulant sur ses joues. Il dit, peut-être que ces dames ont raison. J'ai honte que quelqu'un me voie parler à mon Dieu. Mais j'aurais dû penser que ce serait un tel honneur de lui parler. Je pensais avant que c'était un honneur de si quelqu'un me voyait parler à mon patron. Et combien plus grand est mon Seigneur que mon patron? Il dit, Seigneur, pardonne-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Alors il commença à crier, à hurler. Il était en présence de Dieu. Il courut à la ville rapidement jusqu'à son bureau. Il se mit à crier si fort. Il dut aller derrière la porte. Et il dit, Seigneur, je vais apporter du déshonneur sur toi. Cache-moi ici jusqu'à ce que je sorte de cette crise. Pourquoi? Il était entré en présence de Dieu. Il était un homme changé. Les sermons qu'il avait coutume de prêcher, il prêcha ces mêmes sermons et des âmes venaient à l'autel. Voyez, il était entré en présence de Dieu. Moody, un petit cordonnier, il connaissait à peine son ABC, c'est vrai. Sa grammaire était très pauvre. Quelqu'un lui a dit un jour, « Votre grammaire est très pauvre, monsieur Moody. » Et il a dit, « Oui, mais je gagne des âmes avec cela. » Un jour, dans les journaux, l'éditeur commença à écrire dans le journal. Il était allé voir comment cet homme pouvait tenir une tellement grande foule de gens dans n'importe quelle condition. Un petit homme, âgé, chauve et tout. Il avait de la barbe qui pendait. Il était un peu ventru. C'était un homme horrible à voir. Alors le journal a fait tout un article là-dessus disant, « Je ne sais pas quoi au monde les gens peuvent bien voir en Dwight Moody. » Ils ont dit, « Il est laid, sa voix fait des grincements, il a la barbe jusqu'à la taille, il est chaud comme une citrouille. » Et ça disait, « Comment au monde les gens peuvent-ils aller voir une chose comme Moody ?» Alors, l'homme qui s'occupait des réunions de Moody, ayant vu cela, il dit, « Regardez, monsieur Moody, je vais vous lire ceci. » Car Moody ne pouvait même pas le lire lui-même. Alors il dit, « Je vais vous lire l'éditorial. » Et il le lui lut. Moody a juste hoché les épaules, disant, « Certainement pas. Ils viennent pour voir Christ. » C'était tout. Pourquoi? Il avait été en présence de Dieu. À partir du moment où il faisait des semelles de souliers pour que les gens les usent, ensuite il revêtit les gens avec l'évangile de la préparation. Pourquoi? Il est allé dans la présence de Dieu. C'est vrai. Une fois, une petite femme entra en présence de Dieu, aussi coupable qu'elle pouvait être. À un moment, quand elle réalisa qu'elle était en présence de Dieu, chaque péché lui fut pardonné. Elle était pure et blanche comme un lys. Oh, combien je pourrais nommer de gens, mais le temps ne me le permet pas. Mais je veux parler un peu de moi-même. Qu'est-ce qui pourrait être plus bas que moi? Où étais-je? Je suis sorti d'une famille d'ivrognes, sorti d'une famille de meurtriers, sorti d'une famille de contrebandiers. Et vous savez cela, chacun de vous sait cela. Vous savez quelle sorte de nom nous avions par ici. Les gens ne nous parlaient même pas dans la rue. Si j'allais en ville et que je commençais à parler avec quelqu'un, personne ne me parlait à moins qu'il n'y eût personne d'autre aux alentours. Il me parlait, quelqu'un d'autre arrivait, il me quittait. Et je me tenais là et pleurais. Non, ce n'est pas ainsi, ça ne peut pas être ainsi. C'est faux. Mais un jour, je suis entré en présence de Dieu. Il m'a changé. Il a fait de moi une autre sorte de fils. Sa grâce m'a conduit dans sa présence. Je n'ai jamais voulu la quitter. J'ai été ici maintenant environ 30 années. Je ne veux pas quitter cela. J'ai l'assurance que je serai toujours là. Même la mort ne me séparera jamais de sa présence. Non, je serai toujours avec lui. Lorsque j'ai vu sa présence la première fois, j'ai crié comme Ésaïe, « Malheur à moi !» Et ensuite, il m'a touché avec sa grâce. Je fus une personne changée. Le petit renégat qui avait coutume de sortir ici et agir stupidement et tout. Il était changé. Et depuis ce moment-là, j'ai été son enfant. Depuis ce temps, j'ai désiré donner toute ma vie pour son service. J'espérerais seulement avoir 10 000 autres vies à lui donner. Celle-ci commence à être pas mal usée. 53 années déjà passées. Environ 33 ont été, ou plutôt 32 de celles-là ont été dans l'Évangile. Et j'aimerais en avoir un autre millier à employer. Pourquoi ? Alors que vous avez été une fois dans sa présence et réalisé qu'il y avait quelqu'un qui aimait celui qui n'est pas aimable, qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait alors que personne d'autre ne le faisait, qu'il y avait quelqu'un qui se souciait de moi alors que personne d'autre ne se souciait de moi. J'ai mis mes bras autour de sa croix, je l'ai embrassé pour moi, et moi et lui, nous sommes alors devenus un, et depuis ce temps je l'ai aimé. Il a taché ma poitrine et mon cœur avec son sang en me touchant et en pardonnant mes péchés. Et je suis heureux ce soir d'être l'un des siens. Je ne désire jamais plus quitter ce lieu céleste, même si le tentateur essaye souvent de me persuader, mais je suis en sécurité sous le pavillon de Dieu et heureux dans son amour et sa grâce. Et je vis sur le côté. Oh, alléluia! Oh, cela fait que mon cœur se réjouit. Je le recommande à chaque personne fatiguée. Je le recommande à vous qui n'avez pas d'espoir, vous qui n'avez jamais été en sa présence. La seule chose que vous avez à faire, c'est de confesser vos péchés, de réaliser que vous avez tort. Et Dieu a ordonné à cet ange ce soir, appelé le Saint-Esprit, d'enlever tous vos péchés. Alors vous crierez, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors vous lèverez vos mains et vous chanterez, je le louerai, je le louerai. Gloire à l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tous les gens, car son sang a lavé chaque tache. Oh, je l'aime. Vous aussi, vivant en sa présence. Je suis venu à la chair ce matin me sentant si mal et si malade. J'étais là-bas au Kentucky la semaine dernière avec des amis personnels assis ici. Et si je restais là très longtemps, il me tuerait certainement. Certainement qu'il le ferait. Il me tuerait avec de la bonté. Il y a là-bas certaines des meilleures cuisinières que j'ai connues dans ma vie. Et quand je n'ai eu plein ma capacité et que j'ai été rempli, frère Branham, ne voulez-vous pas avoir encore un peu de ceci? Oh, et c'est si bon. Et j'ai essayé de l'avaler de peine, mais j'étais si rempli. Et je le suis encore, je ne peux à peine bouger, je ne pouvais pas dormir. Alors je me suis levé, j'ai marché un peu, et je ne me sentais pas trop bien quand je suis arrivé ici ce matin. Mais une fois que j'entre en sa présence, c'est tout fini, c'est établi, cela a tout disparu. Alors, c'est vrai, oh, de vivre en sa présence. Je le louerai. Louerez l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tous les gens, car son sang a lavé chaque tache. Inclinons nos têtes maintenant. Frère Branham commence à fredonner le chant de l'éditeur. Car il a tant fait pour moi, il a pardonné mes transgressions et son sang a lavé mon péché. Je le louerai, louerez l'agneau immolé pour les péchés. Donnez-lui gloire, vous tous les gens, car son sang a lavé chaque tache. Frère Branham fredonne de l'éditeur. Maintenant, si vous êtes ici ce soir, et je sais que sa présence est ici, se tenant là tout à l'heure, pour cette petite fille de l'Église de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur moi lorsque j'ai prié pour ce petit enfant. Ses parents étaient venus d'un terrain de camp de l'Église de Dieu de Anderson. Et le surveillant là-bas, connaissant l'enfant, les docteurs ont dit qu'il doit mourir tout de suite avec la leucémie, la gentille petite fille dans les dernières étapes. Elle est venue là en arrière, elle a levé sa petite main vers moi, elle était toute enflée à cause des piqûres et des choses qu'ils avaient placées là-dedans, et c'était tout bleu. J'ai regardé vers elle, j'ai eu une vision. Les parents venaient de lire un livre là-bas, ils ne connaissaient rien de cela. Mais le surveillant général du camp là-bas leur a dit, amenez l'enfant là-bas. Ils ont voulu revenir lorsque nous aurions un service de guérison, mais j'ai dit, amenez l'enfant maintenant. Je me sentais conduit. Lorsque je me suis tenu là, le Saint-Esprit est allé jusqu'en arrière dans sa vie, a tout sorti l'histoire de l'enfant, a dit comment tout cela s'était passé, ce qu'ils avaient fait, a dit l'ambition de la petite fille. C'était de jouer du piano. Et cette mère a quasiment crié, ce papa a dit, c'est la vérité de Dieu, assis là dans l'auto, écoutant cela, ne pouvant pas entrer, assis là-bas, écoutant cela, maintenant. Il vint un gros voile d'obscurité pendu au-dessus de l'enfant, et j'ai dit, Satan, tu es vaincu. Ô Dieu, tu ne fais point exception de personne, et par la puissance de ta résurrection, et en tant que ton serviteur, je chasse ce démon de l'enfant. Et une grande lumière éclatante a étincelé au-dessus d'elle. C'était fini. Amen. Quoi? Certainement, il est digne de toute la louange. Il connaît toutes choses. Il connaît votre cœur. Et vous savez ce que vous pensez. Il le sait lui aussi. S'il y a un petit péché pendu sur vous ce soir, et vous ne voudriez pas aller en présence de Dieu avec cela sur vous, voulez-vous à nouveau lever votre main et dire, frère Branham, priez pour moi, je veux être en sa présence en ce jour-là, innocent. Que Dieu vous bénisse. Plusieurs mains, Dieu la voit, en sa présence. Maintenant, je vais vous dire quoi faire. Maintenant, écoutez bien attentivement. Faites comme David a fait. Placez le Seigneur devant vous maintenant. Placez le Seigneur devant vous et ce péché. Quel que soit ce péché qui vous enveloppe si facilement, c'est peut-être mentir, peut-être voler, c'est peut-être penser mal, c'est peut-être votre caractère, peut-être boire, peut-être fumer, peut-être prendre des risques, je ne sais quoi, c'est peut-être la convoitise. Quoi que ce soit, je ne sais pas ce que c'est. Quoi que ce soit, placez le Seigneur devant vous. Et ensuite, votre cœur se réjouira et votre chair reposera en sécurité. Car vous savez que Christ a promis qu'il le ressusciterait dans les derniers jours. Lorsqu'il apparaîtra, nous deviendrons, nous serons transformés en son image. Ne voulez-vous pas maintenant le faire pendant que nous prions? Notre Père Céleste, un petit message tout coupé par un serviteur fatigué et chargé, mais pensant seulement à ce sujet de demeurer en présence de Dieu. Et nous voyons ce soir l'effet que cela a apporté sur de saints hommes de venir en ta présence. Quel effet cela a eu sur eux? Des sages, de grands prophètes puissants ordonnés par Dieu et envoyés pour prêcher la parole, et néanmoins le rencontrant face à face au sol comme un homme mort. Qu'allons-nous faire en ce jour-là, Seigneur? Nous y avons pensé. Nous pensions à cela. Quelques 40 ou 50 mains y ont pensé, Seigneur. Car ils viennent de lever leurs mains, et leurs cœurs sont derrière leurs mains, pensant en ce qui concerne le rencontrer depuis que nous parlons. Que feraient-ils s'ils devaient le rencontrer? Mes mains, Seigneur, sont levées. Que ferais-je? Maintenant, Père, j'ai plusieurs choses que j'ai fait incorrectement. Je viens de confesser mon péché ce matin devant l'Église, comme je l'ai confessé sur le haut de la montagne l'autre matin, lorsqu'il ventait et neigeait. Et là-haut, sur le sommet de la montagne, comme je t'étais demandé de me pardonner ma stupidité, et alors j'ai craint de venir devant mes frères, dont quelques-uns d'entre eux me considèrent comme ton serviteur, comme j'ai haï de venir devant eux et de leur dire que j'ai commis un acte stupide, que j'ai fait une chose comme cela, mais ô Dieu, c'est bon pour mon âme que je confesse mes péchés et que je ne les cache pas. Alors, d'être honnête avec toi, et en ordre avec les gens, je l'ai confessé, Seigneur, j'ai tort. J'ai complètement tort. Je prie pour le pardon. Et ensuite, Père, si je n'ai pas été à ton propos te servant plusieurs fois, peut-être que j'aurais pu continuer plus longtemps, et je ne l'ai pas fait. Ô Père, je confesse mes péchés. Je veux que l'ange de Dieu me purifie de cela par le sang de Jésus. D'autres mains, Seigneur, sont levées ce soir. Quelques-uns n'ont peut-être jamais demandé pardon auparavant, mais je suis sûr de ceci, si nous confessons nos péchés, Dieu les effacera et les jettera dans la mer de l'oubli et ne s'en rappellera jamais plus. Et Père, comme je confesse les miens, à propos de me conduire mal devant ces gens, je ne me suis pas conduit comme un serviteur de Christ, je ne l'ai pas fait, j'avais peur que l'homme, Seigneur, se fâche après moi Et j'ai pensé que je ne voulais pas blesser ces sentiments, mais je n'ai pas pensé à ce que je faisais, Seigneur. Et maintenant, je prie que tu me pardonnes. Et maintenant, Père, je sais que si je te demande pardon, tu les as mis dans la mer de l'oubli, et tu ne t'en souviendras plus jamais. Ô Dieu, je suis reconnaissant pour cela. Et je prie que tu laisses chaque personne ici qui a un péché, ou le péché qui enveloppe si facilement de n'importe quel genre, devant eux qu'ils puissent l'enlever et placer le Seigneur devant eux comme David. Car maintenant nous nous écrions, malheur à moi, car j'ai vu la gloire de Dieu. Je suis un homme aux lèvres impures, et nous demandons le sang de Jésus-Christ, le sacrifice approprié, pour qu'il nous purifie de tout péché, afin que nous demeurions en sa présence. Partant d'ici ce soir, avec nos cœurs pleins de réjouissance et notre chair reposant en espérance, sachant ceci que lorsque Jésus viendra, nous serons ressuscités avec lui en son image et nous le rencontrerons dans les airs dans l'enlèvement. Lorsque le compte à rebours sera finalement terminé, nous voyons le septième âge de l'Église déjà compté. Nous sommes prêts à décoller. Oh, nous prions, ô Dieu, que toi, avant de fermer la porte, s'il y en a un ici qui n'est pas entré, qu'il puisse y entrer rapidement. Car nous sentons que la porte de miséricorde, ou entre la miséricorde et le jugement, est en train de se fermer. Ceux qui accepteront la miséricorde entreront, ceux qui n'entreront pas auront à subir le jugement. Dieu ferme la porte. Qu'il n'y ait pas une porte fermée ce soir pour aucun de ces pécheurs repentants. Puissions-nous tous avoir le pardon et la miséricorde au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Père, pour les malades, les affligés, pour ceux qui sont dans le besoin, je prie que ta grâce pourvoie à tout ce dont ils ont besoin. Qu'ils puissent entrer en Christ, en sa présence, placer Christ, Christ la promesse. Il a été brisé pour nos transgressions, c'est mon péché. Dans ses meurtrissures, je suis guéri, et ensuite je place le Seigneur devant ma maladie. Il est à ma droite, et je ne chancellerai pas. Alors je marche en avant avec assurance, confessant que je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Accorde-le, Seigneur, à chacun d'entre eux. Et nous savons que si nous confessons avec nos cœurs ou avec nos lèvres et croyons dans nos cœurs, alors nous obtiendrons notre désir. Tu as dit, lorsque tu dis quelque chose, crois que cela s'est accompli et tu peux avoir ce que tu as dit. Nous croyons cela, Père, et nous croyons que tu nous purifieras de tous nos péchés et que tu guériras toutes nos maladies, et donne-nous la grâce, Seigneur, de te servir. Sois avec ces gens. Plusieurs d'entre eux ont à voyager sur ces routes sombres ce soir. Plusieurs d'entre eux vont voyager pendant bien des milles. Ne laisse rien leur arriver, Seigneur. Ils ont traversé le pays pour venir s'asseoir ici, pour écouter le compte à rebours. Pour voir combien près nous étions de la fin des temps. Maintenant, je leur ai demandé de partir, plaçant Dieu devant eux, toujours devant eux, devant toute autre chose, avant leur voyage, devant leurs allées, devant leur... avant de se lever, après qu'ils sont allés se coucher, toujours avant qu'ils dorment, ou que ce soit, placer Dieu en premier, car il est à ma droite, et je ne serai pas ébranlé. Alors, que vos cœurs se réjouissent de savoir qu'ils ont ce qu'ils ont demandé, car Dieu l'a promis, et leur chair reposera en espérance. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le louerai, louerai l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tous les gens, car son sang a lavé chaque tâche. Maintenant, croyez-vous que vous avez placé le Seigneur entre vous et votre péché, entre vous et votre maladie, entre vous et votre faute, entre vous et vos habitudes? Le Seigneur est toujours devant moi et je suis en sa présence. La prochaine fois que je commence à allumer une cigarette, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je commence à convoiter, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je commence à dire quelque chose de faux, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je commence à dire une mauvaise chose, le Seigneur est devant moi. Et je ne chancellerai pas. Amen. Je vivrai en sa présence chaque jour. Avec mes comportements, chaque jour avec mon langage, je marcherai comme si le Seigneur est devant moi, parce que ce soir, je l'ai placé devant moi, je ne serai pas ébranlé. L'aimez-vous? Maintenant, levons-nous maintenant. Oh, je me sens tellement bien. Je me sens comme si je ne veux pas aller à la maison. Savez-vous qu'il est seulement environ 9h-25? J'ai environ 2 heures d'avance. N'est-ce pas merveilleux? Oh, mais maintenant, alors que nous partons, rappelons-nous, nous devons prendre le nom de Jésus avec nous, comme un bouclier contre chaque piège. Et lorsque les tentations nous entourent, pour essayer de coller, oh, garde-nous fidèles. Rappelez-vous de cela, murmurez simplement ce saint nom en prière. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et de malheur, il te donnera joie et réconfort. Oh, prends-le partout où tu iras. Nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Combien aime notre pasteur Ferneville? N'êtes-vous pas reconnaissant, Seigneur, pour un bon et honnête homme de tous les jours, qui croit à l'Évangile, et il fait un travail si merveilleux en obéissant au commandement de Dieu, et en prêchant la parole, et en gardant cette merveilleuse atmosphère spirituelle dans l'Église tout le temps. Rappelez-vous, je suis descendu tout le long de la côte Est, traversé le Sud, je suis monté sur la côte Ouest, et à travers tout le Canada, et je n'ai pas rencontré une Église qui soit aussi spirituelle que cette Église ici. Oh, bien sûr, partout en des endroits, ils ont commencé à se monter la tête, oui, et bien sûr qu'il doit y avoir le fanatisme, mais où qu'ils soient, ils sont allés dans des excès, ou alors ils sont si froids qu'ils ne peuvent même pas être un petit peu ébranlés, c'est tout. Maintenant, vous aimez-vous les uns les autres? Alors donnez-vous la main l'un à l'autre et dites, louange soit au Seigneur. Frère Branham loue aussi le Seigneur et serre la main et parle aux gens en mode de l'éditeur. Prends le nom de Jésus avec toi, comme un bouclier contre chaque piège. Lorsque les tentations t'entourent, que faites-vous? Murmure ce saint nom en prière. Nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Nom précieux, ô si doux, espoir de la terre et joie du ciel. Inclinons nos têtes maintenant, très doucement, n'oublions pas cela maintenant. Chantons ce verset à nouveau. Prends le nom de Jésus avec toi. Pourquoi? Comme un bouclier contre chaque piège. Lorsque Satan essaye de vous piéger, lorsque les tentations t'entourent, qu'est-ce que tu fais? Murmure simplement ce saint nom. Car le Seigneur est devant moi et je ne serai pas ébranlé. Nom précieux, précieux nom, ô si doux. Amen.